Bonjour, chers frères et sœurs. Est-ce que ça va pas bien? Ils m'ont dit quoi? Est-ce que ça va bien? Bon. Gloire à Dieu. Alors, j'étais encouragé avec ce sujet parce que, vous allez voir que c'est pas nouveau, mais qu'en fin de compte, le Saint-Esprit est toujours le même, la parole de Dieu, c'est toujours la même, oui et amen, efficace. Et elle dit, elle nous redit, elle nous rappelle des choses importantes, essentielles, peut-être basiques, parce qu'il faut qu'on construise sur sa base, sur la base de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Qui est content d'être sauvé? Oh. Eh oui, parce qu'il y a la Thessaloniciens 5 qui nous dit, verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Alors, on est content? Ok, mais êtes-vous dans le contentement? Oui, bon. Parce que je soupçonne quand même qu'il y a un autre but plus puissant que notre bonne humeur, notre satisfaction quotidienne. Hein. Alors c'est bien, parce que pour tenir bon quand même, pour avancer toujours dans sa connaissance, je crois que c'est ça le plan du Seigneur. Son esprit est sur nous pour cela, pour qu'on avance dans la vie chrétienne avec assurance, un petit peu dans son confort, dans le confort du Saint-Esprit, avec sa force. Hein. Alors, dans le contentement, il y a content. Alors, c'est vrai, il y a la joie, le plaisir, le bonheur, la félicité, la satisfaction d'un besoin ou d'une envie. 1 Timothée 6, verset 6 nous dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Alors c'est un gain, la parole nous l'affirme, c'est un gain, c'est un plus, un atout, une carte maîtresse, je dirais. Alors, c'est pas parce qu'on est dans le contentement qu'on gagne toute la partie, mais ça contribue au plaisir de jouer pour gagner avec le Seigneur, pour le rejoindre là-haut dans les cieux célestes. Hein. Ça traduit l'assurance de ne pas perdre. Le contentement en Jésus, c'est ça. On est sûr d'être arrivé avec le Seigneur. Alors Philippiens 4, verset 11, nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Content dans l'état où je me trouve. Oui. Mais on apprend quand même que le contentement ne dépend pas seulement de la satisfaction de mes besoins. Hein ? Puis Proverbe 15, verset 15, nous dit « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais oui, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Et c'est vrai, quand on est affamé, on sait ce qu'est un festin. Et là, la parole nous dit un festin perpétuel. Ça en dit long sur le plan de Dieu, ça. Perpétuel. Hein? Et puis on rajoute encore Psaume 61, verset 3. Pourquoi ? Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Ça, je crois que, hein, on en a envie de tout ça. Et puis je rajoute encore, parce que c'est la parole, donc faut en profiter, hein. Ésaïe 65, verset 18, « Réjouissez-vous ! » Pourquoi ? À cause de ce que je vais créer. Il y a encore un avenir, il y a encore quelque chose que le Seigneur va faire en nous, au milieu de nous. Il ne s'est pas arrêté à la croix, il continue son œuvre. Les choses que je vais encore créer en vous, par vous, avec vous. C'est donc une bonne raison de se réjouir, car il fait toutes choses bien, toutes choses bonnes. Et puis Philippiens 4, 4, qui ne connaît pas, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Tout à l'heure, dans les prières, on parlait de... Ça m'est revenu qu'on est sur la circonférence d'un cercle et Christ est le centre. Et tous nos regards convergent vers ce centre. Et tant qu'on est sous son influence, alléluia, ça va, ça marche, ça se passe bien. On est loin d'être malcontent, on disait au XIIIe siècle, c'est devenu mécontent. C'est le contraire. On est dans le contentement de connaître et de vivre avec le Seigneur. Alors, j'ai failli chanter « Toujours content par la pluie ou par le beau temps, qu'on soit triste, que ce soit triste ou difficile. » Vous connaissez ce chant-là. Alors, je parle donc du contentement, vous avez compris. Est-ce toujours passer outre les difficultés, les problèmes? Est-ce que, vous savez, l'autruche, quand elle a un problème, un gros problème, met la tête dans le sable. Tout le monde connaît cette image. Est-ce qu'elle s'attend à ce que, y a l'orage, puis hop, un coup de vent, tout se dissipe. Les nuages, tout ça, et le beau temps revient. Est-ce pour tous et en tout temps le contentement? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que tout le temps, on peut l'être? Alors, j'ai pensé à Job. Pouvait-il être dans le contentement au travers de tant d'épreuves? Et puis, c'est un euphémisme, hein, le contentement. Pardon. Et pourtant, il se réfugie dans la position de la créature de Dieu. C'est Dieu son créateur et lui, il est sa créature. Dieu n'est pas à son service pour uniquement combler ses désirs, ses besoins. C'est vraiment Dieu son créateur. Dieu son créateur. Alors l'homme moderne, bien sûr, lui fait un peu fi de tout ça. Hein. Alors, certains se créent même des dieux. Alors il y a même certaines femmes qui se créent un dieu, leur mari. Manque de bol, pour faire référence au football. Mettez un homme sur un terrain de foot, mais il ne contrôle même pas le ballon, hein, n'est-ce pas? Donc, son Dieu, il ne sert à rien, quoi. Il est inefficace. Alors, peut-on être content encore quand on perd son emploi, quand on apprend une mauvaise nouvelle, quand on est malade, quand on apprend un décès, quand même si on nous vole notre belle voiture qu'on vient d'acheter, on ne peut pas être content. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut rester dans le contentement? Ça, vous connaissez tous, ces petites contrariétés de la vie. Et même dans le temple de Dieu, on peut être dans le contentement. C'est vrai qu'on y est bien. Et puis, je me rappelle la prière du propre juste, en Luc 18, verset 11. « Ô Dieu, je te rends grâce. » Il est dans le contentement. « Je te remercie de ce que je ne suis pas comme eux, comme les autres. » Il est fort de son bon choix, c'est bien, mais... Il y a quand même une suite après le choix. Hein. Donc, il y a des actes à accomplir. Alors, la réponse de Jésus, vous la connaissez. Elle est nette, elle est sans bavure, elle est stricte. Matthieu 5, 20 lui dit, « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et Matthieu 6, verset 5, « Ne soyez pas comme ces hypocrites qui prient pour être vus des hommes. » Alors, on se garde d'être tout ça. Hein. Ça moi, le premier, hein, je dis, oh là là, mais Seigneur, merci pour cet exemple négatif qui montre qu'il ne faut pas que j'entre dans ce négatif. Alors, le contentement, selon la parole, ne peut être factice, épisodique, superficiel ou passager. Ce n'est pas parce qu'on est satisfait d'avoir obtenu ce qu'on voulait. Parce qu'on peut être content d'être en bonne santé quand même. On est quand même content d'être en bonne santé. Ou d'avoir un beau costume, hein, vous avez vu, des fois, j'ai mis la cravate. Ou une belle voiture qui va bien, quand on vient acheter une voiture neuve, on est vraiment dans le contentement, là, on est joyeux. Ou un bon travail, bien payé, pas trop épuisant quand même. Alors, la vie se passe comme ça. Et puis un jour, je pensais à un artiste qui chantait « Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. » Et là, le regret, c'est un peu tard. Quoi qu'avec Jésus, on peut toujours revenir. Et c'est ça qui est merveilleux. Si on a perdu des yeux le repère de Jésus, le centre, on peut revenir à lui. Et ça, c'est extraordinaire. Là, le contentement reprend une source nouvelle. Donc, je ne parle pas de ce contentement humain, charnel. Parce que le vrai contentement, en fin de compte, il n'est pas naturel. À cause de quoi? À cause de sa source. La source de notre contentement n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Et elle devient viscérale. Elle est viscérale parce qu'elle est spirituelle, elle nous habite. Et c'est ce contentement-là sur lequel on peut s'appuyer, pas comme sur une canne, parce que c'est du matériel, ça casse, ça s'use, ça se perd. Mais c'est efficace. Sur le fondement de toute ma motivation. Ma motivation, vous savez, on revient toujours à soi, en fin de compte, quelque part. La motivation, elle est basée sur qui? Sur Jésus, et qui est le roc, le rocher. Alors, Comment atteindre le but du Seigneur, par exemple dans la sanctification? Parce qu'il veut que nous soyons dans son contentement. C'est donc un moyen important. Alors on est appelé à recevoir cette force spirituelle qui se concrétisera et qui se concrétise dans notre vie. Et elle se vérifie comment? Si on entre dans la plénitude de Dieu, être plein du Seigneur, vous savez, connaissez ça, ce langage, qui se manifeste comment? Alors, ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. On connaît, on a déjà entendu parler de ça, le fruit de l'Esprit. Alors, je le rappelle quand même, parce que c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et là, on trouve son contentement si on obtient ces choses. Galates 5, 22, l'amour, la joie, si vous en savez, allez-y, hein, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La loi, bien sûr. Et là, nous avons une référence au Saint-Esprit, à la présence de Dieu dans nos cœurs. On est tous nés. C'est tout ça, les fruits de l'Esprit sont nés avec le contentement qui produit ses effets. Le contentement en Christ produit des effets. C'est le signe extérieur qui devait être constaté par les autres, de l'œuvre de Dieu en nous. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas philosophique, ce n'est pas hypothétique. Se revendiquer d'être habité de l'Esprit de Dieu se confirme par des changements visibles. Si le fruit d'esprit produit par le Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies, se manifeste, c'est avec un changement visible. Alors, par exemple, j'étais colérique, j'étais pessimiste. Moi, j'étais une tendance pessimiste, triste. On peut être querelleur, on était jaloux, on était impatient, on était inconstant, on était peut-être méchant. Ça, c'est du passé. Il faut considérer cela comme du passé. Alors moi, j'ai jeté tous mes Legos. Oui, bah oui. Comme tous, j'avais des Legos. L'égoïsme, l'égotisme, l'égocentrisme. Lego, Lego, Lego. On joue tous aux Legos, hein. Eh bien, stop, on jette nos Legos avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, pour être content, se contenter de ce qu'il nous donne, de ce qu'il nous fait dans notre cœur, eh bien, il nous aide à les jeter. Oh, les Legos, oh, c'est sympa, pouf, j'en ai pas besoin. Le contentement de Paul, ah, quand on lit tout ce que Paul a vécu, ce n'est pas épisodique, ce n'est pas momentané, parce qu'il n'est jamais satisfait pour son besoin physique. Vous savez, être battu, prisonnier, insulté, faire naufrage, on ne peut pas dire que ce soit des besoins recherchés. Hein. On peut retrouver tout ça dans 2 Corinthiens 12, chapitre 12 et chapitre 13. Relisez, c'est intéressant. Mais il faut dire, une petite parenthèse, c'est que les chrétiens, ce n'est pas des masos. Hein. Quand Jésus dit « tends l'autre joue », tu as pris une claque. « Tends l'autre joue », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut vraiment tendre l'autre joue? Moi, je crois qu'il y a un deuxième enseignement. Il nous dit « Sois prêt à recevoir une deuxième claque. Sois prêt. C'est pratiquement inévitable parce que le monde m'a haï, le monde me hait. L'ennemi de nos âmes veut nous infliger des coups. Et Paul est un sacré exemple. Alors, il y a les tribulations, l'accablement extrême, le désespoir, mais la consolation de Dieu par sa présence, dit Paul en 2 Corinthiens 11, versets 8 et 9. La consolation de Dieu par sa présence. Eh oui, contentement à ce moment-là, il comble tout l'espace. Rien d'autre ne subsiste et ne peut prétendre occuper les lieux, sinon l'Esprit de Dieu, son contentement d'être son temple, d'être son temple. La plénitude du Saint-Esprit accaparait. Comment? Je pense à Étienne quand même. Vous vous rendez compte? En acte 7, versets 55-56, ce qu'il a vécu, la lapidation, et il était dans le contentement de la présence de Dieu. Il voyait les cieux ouverts. C'est incroyable. C'est incroyable la plénitude du Saint-Esprit. Alors on peut, je rêverais peut-être, parce que quand même les cailloux ça peut faire mal, on peut rêver d'être un tel disciple. Mais la vie n'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Notre corps, il est bien concret. On a besoin, donc absolument, du support de Dieu. On l'a chanté plusieurs fois ce matin. On en a besoin. Et il répond à nos besoins. Il répond à nos besoins. Il répond à nos besoins. Il faut retenir que le contentement, selon la parole, est toujours positif, malgré les apparences. Il n'a rien à voir avec la résignation, l'empreinte d'amertume qui pousserait au retrait, et puis souvent dans la débandade. Vous savez, on entend des fois « Oh, je dois m'en contenter ». Mais en fin de compte, on avoue, je me contente de peu, de ce qui reste. Ben non, c'est une résignation, ça. C'est pas positif, c'est négatif. C'est de la soumission devant un fait ou devant une domination extérieure, souvent de mauvaise influence. Il n'y a qu'à voir ma tête si je pense ça. Alors là, je n'ai même pas envie de vous voir. Hein. Je me cache dans un petit coin sombre. Dans la disette, on peut se contenter de peu. Eh oui. C'est un peu apaisant parce qu'on se dit « Ah, il y a encore quelque chose au fond de la gamelle. Il y a encore quelque chose au fond de l'assiette. C'est mieux que rien. Je n'ai pas le choix. » Ou à l'opposé, dans l'abondance, on peut se contenter de peu parce que... Bah, être avare ou par obligation, ou on ne sait pas trop comment avoir accès. On bave d'envie, encore. Ce n'est pas une bonne posture non plus. Donc, être dans le contentement n'est donc en lui-même, rechercher le contentement en soi, c'est ni un but, c'est pas un but, c'est pas une solution. On ne se force pas à être heureux, là, vous le savez. Quoi qu'il y en a, ils disent « j'en avais plein les poches hein ». Mais bon, je... à d'autres choses. Le contentement du corps, il est très versatile. Il n'y a qu'à voir la météo. Hein. Par 38 ou par moins 10, on est bouillant ou vraiment frigorifié. Et je ne parle pas seulement de physiquement, des fois, c'est même mentalement. C'est comme être contrarié ou au contraire encensé par ses proches. Qu'un cactus ou qu'une plume me caresse, il y a un trouble qui dissipe ou qui modifie mon contentement dans le Seigneur. Alors, vous voyez ce qu'est ce contentement-là ? Ce n'est pas de celui-là que je parle. Ça, la vie sait nous l'apprendre. Le contentement de Dieu, selon Dieu, est un sentiment qui s'installe, qui prend position, assis en Christ. Dans l'ambiance d'un grand spectacle, soit au Zénith ou dans une grande salle où il y a des milliers de chrétiens qui louent le Seigneur sur la musique, Il y a la joie, il y a tout ça, c'est bien, c'est bien. Mais le lendemain, une fois dans son quotidien, des fois, pour certains, la nostalgie ou la tristesse initiale revient. Alors l'émotion nous a visités, elle a fait du bien, mais elle ne s'est pas transformée en sentiment durable, fiable et vrai, profond. Le seul contentement capable de continuité, parce qu'il est toujours le même, dans toute sa plénitude, il est où ? Il est en Christ. Vous êtes d'accord ? Amen. Il est en Christ. Il est en Christ. Alors, c'est vrai que notre but, ce n'est pas de remplir notre outre, hein, ce n'est pas de bomber notre réserve ou de stocker, mais pouvoir épuiser. Vous savez, la source qui coule de notre sein, si le Seigneur ne l'abreuve pas, si on ne sait pas remplir notre besace. J'aime bien l'histoire de la besace, même si dans la parole, il y a d'autres termes. Parce qu'on la met toujours en bandoulière, on la garde avec nous. Elle est toujours là, la besace. Et le Seigneur, il la remplit et on peut puiser suivant nos besoins réels. Vous savez, le mécontentement trouble la paix. Donc, moi, j'en déduis que l'inverse est vrai. La paix est alimentée dans le contentement. Et pourquoi chercher ailleurs ce qu'on a déjà vu ? Entrer dans mon repos. Qui c'est qui a dit ça ? Entrer dans mon repos. C'est Jésus, bien sûr. Alors ne restons pas sur le seuil. Entrons dans son contentement. Quel contentement d'être assis avec Christ. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités et fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Asseoir dans les lieux célestes avec Christ. C'est bizarre parce que c'est le présent qui se mêle au futur et c'est le futur qui est déjà réalisé. Alléluia. Alors, à moins d'être assis dans un fauteuil roulant, ben dans ce cas-là, vous roulez. Hein. Pourquoi ? Parce que marcher de progrès en progrès. Mon frère est dans un fauteuil roulant en ce moment, il a des gros problèmes, il a même du mal à rouler. Mais avec le Seigneur, il est dans le contentement de la joie de Dieu. Et franchement, ça me parlait beaucoup. Et c'est vrai que c'est une autre optique. Quand on fourmille au milieu des hommes, on n'est pas hors du monde parce qu'on ne peut plus en être le jouet. Si on est dans le contentement, on est extirpé. On est assis dans les lieux célestes, donc on est extirpé de l'influence de ce monde. Alors je dirais que quand on est extirpé, c'est comme quand on monte dans un hélicoptère. Hein. Soudain, on découvre la ville, on découvre sa vie, et puis avant, on était dans les dédales, dans les chemins, dans un labyrinthe de ruelles, et on n'arrivait pas à trouver de sortie. Et puis là, on est en haut, puis mais c'est extraordinaire. Le Seigneur nous dit, va à droite, va à gauche, va tout droit, je t'attends là, je suis avec toi. Et là, on sait ce que c'est que le contentement. Ça sert à quelque chose. Alors, il faut quand même se rassurer. Une fois j'avais parlé de ça, mais on n'est pas les marionnettes du Seigneur. On est co-héritiers, on est frères avec Christ. Co-héritiers. On n'est pas des marionnettes. Il a besoin de notre volonté, il a besoin de notre engagement. On garde le contrôle des directions, le choix du transport, hein, mais dans le contentement, parce que c'est cette motivation du cœur qui est boostée par le Saint-Esprit. C'est comme notre regard, il ne regarde plus la plaie. Il n'est pas figé sur la plaie, donc aïe, 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 j'ai mal. Il regarde à celui qui guérit les plaies, celui qui est mort sur la croix pour guérir nos meurtrissures. Vous savez pourquoi ? Je vais me faire plaisir, mais vous savez, sur la terre, il y a la teigne et la rouille. La teigne et la rouille. Tout le monde connaît ce passage. Et nous, on ne veut pas rouiller. Moi, je ne veux pas rouiller. Donc, je ne suis pas un homme de fer. Normal, parce que le fer, hein. Bon. Donc, je deviens, par la grâce de Dieu, inoxydable. Vous voyez le changement ? Pas comme le cuivre ou l'alu. Ils sont inaltérables en apparence. C'est qu'une surface d'oxydation qui protège le dessous. Et tôt ou tard, ça finit par ronger tout. C'est qu'une fine couche. Nous devenons même... On dit souvent nickel chrome. Eh bien oui, on devient chromé par l'action du Saint-Esprit, par la présence de Dieu dans notre vie. On est chromé, les amis. On est chromé. On devient brillant. On devient bien lisse. On devient inaltérable. On est un cran plus haut que l'aluminium ou le cuivre qui soi-disant ne rouille pas. Vous vous rendez compte ? Inaltérable, inattaquable, parce que le sang de Christ nous installer dans ce contentement de tout ce qu'il a créé. On est là, assis en Christ. Pas comme une moule, hein. On n'est pas immobile sur un rocher. Hein. On n'est pas une moule. On est appelé à marcher, comme je le disais tout à l'heure. Alors le contentement, il s'exprime depuis l'intérieur, comment ? Un peu comme un parfum, vous savez. Le parfum, on ne le voit pas, mais on le sent, la bonne odeur de Christ. Une fois, j'avais entendu prêcher là-dessus, c'est vrai que ça fait réfléchir. La bonne odeur de Christ, on ne voit pas, on n'entend peut-être pas, mais Christ est là, on le sent. Sa présence, on exhale la présence de Dieu en nous. Il y a Voltaire qui a même écrit, Voltaire, pourtant, hein, c'est pas une référence biblique, « Le vrai contentement n'est ni gai ni folâtre. » Eh bien, même Voltaire a compris qu'il fallait qu'il dépasse l'émotion, mais sans chercher à vagabonder. Hein ? Le vrai contentement n'est ni gai ni folâtre. Une fois élu par Dieu, on reste en poste. On est élu. Alléluia ! Ça, c'est du contentement quand même, positif. Hein ? On est encouragé donc à chercher le contentement parce qu'il est en plus agréable. Et s'il est agréable, on manifeste notre joie. On crie de joie, on danse. Moi, je ne danse pas trop. Mais c'est beau de voir que quand on aime le Seigneur et qu'on est content de lui appartenir, ça, c'est une œuvre de Dieu. Alors, c'est vrai que, tout à l'heure, j'évoquais un petit peu l'argent. Donnez-moi 1 million et moi, je serai content. J'ai déjà entendu ça. Seulement, une fois que j'aurai tout dépensé, mon contentement, il aura déménagé la cloche de bois. Hein ? On pense au jeune homme riche, cet jeune homme riche qui, bien dans le contentement d'être riche, il veut un peu plus, il veut connaître ce que le Christ lui apporte, et il aspire à autre chose que cette richesse matérielle. Il est content, mais ça ne lui suffit pas, il n'est pas vraiment content. C'est pas ce contentement surnaturel. Il en veut, il le demande, il aspire, mais il ne l'aspire pas. Il n'aspire pas le contentement que Jésus veut lui apporter. Il court après, et ce ne l'habite pas. Et il va courir comme ça jusqu'où ? Jusqu'à épuisement. C'est triste, c'est dommage. Alors évidemment, le désir de s'enrichir, hein, c'est un obstacle. Ce n'est pas le fait d'avoir de la richesse, c'est le fait de vouloir s'enrichir, courir après cela. D'ailleurs, Jésus a condamné cela, puisqu'en Luc 18, 35, il dit que le chameau passe plus facilement par le chat de l'aiguille que cet homme-là. Une fois avec les enfants, on avait fait des marionnettes, on avait recréé ça. C'est vrai que ça choque quand même. C'est dit, mais attends, c'est impossible ça. Le jeune homme riche ne peut même pas. L'homme riche, ce sera impossible pour lui. Un chameau passera plus facilement dans le chat d'une aiguille. Vous avez vu le chat d'une aiguille ? Essayez d'enfiler sans lunettes, vous allez voir. Mettez la semaine. Hein. Comment ? Les jeunes, oui, mais bon. Non, mais nous, on doit être encore plus contents d'appartir au Seigneur. On a de l'expérience derrière nous, l'expérience vécue de l'œuvre de Dieu en nous. Comptez les bienfaits de Dieu. Ça réjouit. Ça donne du contentement. Alors, ce voyage est un objectif personnel, qu'il soit pour l'argent, pour la gloire, pour l'adulation, le pouvoir, mettez tout ce que vous voulez. Je pensais à... On parle beaucoup de la NASA et tout ça. C'est comme débuter un voyage vers Mars. C'est incertain dans l'arrivée. Ça va prendre beaucoup de temps, celui-là même qui nous est compté. Et c'est dangereux, c'est risqué. On quitte l'atmosphère oxygénée par Christ, essentielle à notre vie de chrétien. Alors le retour hypothétique, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, hein, ça c'est clair. Plus on s'éloigne, plus ça devient hypothétique. À la base, le contentement était pourtant recherché. Donc c'est vraiment pas un but. C'est pas un but, le contentement. C'est une conséquence de l'œuvre de Dieu pour nous. Alors, pour être satisfait, pour être dans le contentement, il faut quand même se rendre compte de son état. Je crois que j'ai déjà insisté pas mal là-dessus. Et pour être dans le contentement, il faut aussi décider d'y rester, d'être dans cette satisfaction. Parce que celui qui est comblé, il n'a plus de place pour le reste. On a entendu récemment beaucoup de... En moins d'un mois, je ne sais plus combien de temps, 90 personnes se sont noyées. Vous vous rendez compte ? Mais il y en a certainement qui ont été sauvées quand même. Hein ? Alors si on est sauvé de la noyade, en allusion à l'œuvre de Dieu en nous, eh bien, on est plutôt content, on est plutôt satisfait. Hein ? On pense, mais on ne va pas retourner le lendemain dans les fameuses baïnes qui ont failli nous tuer. On ne va pas y retourner. On reste dans le contentement de sauver, de racheter, non ? Alors, il y en a des petits malins qui diraient « Ouais, mais tu sais, si tu tombes de cheval, il faut remonter tout de suite, pour vaincre la peur. » Ouais, mais attends, moi je dirais « Mais attends, le contentement, ce n'est pas de l'équitation. Hein ? » Le contentement, ça se nourrit de stabilité, de fiabilité dans le temps et d'assurance solide, de confiance, donc de foi. Comme d'être assis en Christ en toute situation. Soyez inébranlable. Quel encouragement. Mais c'est non seulement un but, mais ça doit devenir une réalité. On est quand même nickel chrome, hein, les amis. Nickel chrome. Hein. J'aime bien ça, cette image, ça parle. Nickel chrome. Vous pouvez le laisser 25 ans à l'extérieur, ça ne rouille pas. Il est inattaquable, inatteignable par la rouille et la teigne de ce monde. Alors, on a découvert cette assurante stabilité en Christ, celui qui est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Ça ne s'arrête pas demain. Alors, on est content de cela, je pense. Nous sommes contents. Et on se contente de cette assurance-là. Moi, je veux m'en contenter. Merci Seigneur, parce qu'il nous le rappelle chaque jour, chaque matin. Vous savez, dans la vie, on prend l'image du bateau, la mer s'agite. Notre bateau prend la gîte. Il penche sous le vent, sous la houle. La société s'agite, nos pensées s'agitent. Par contre, le tumulte nous éclabousse. Et alors ? Je suis dans le contentement d'être enfant de Dieu. C'est vraiment spirituel, mais c'est puissant. C'est beaucoup plus puissant et gratifiant que n'importe quelle pensée ou n'importe quelle occupation dissuasive. Donc le contentement a besoin d'être accompagné d'assurance. Et quelqu'un a payé notre assurance. Mais qui a payé notre assurance de vie éternelle, pour nous donner du contentement? C'est Jésus sur la croix. Et quel prix! Nous, quand je vois mon échéance d'assurance, je dis, oh, mais le Seigneur n'a pas regardé le total. Hein. Il a tout fait. Total. Sa vie. Descendu du ciel, de gloire, venu sur la terre, mort sur la croix dans des souffrances, pour nous, pour moi, pour nous rendre nickel chrome. Excusez-moi, mais ça me plaît, ça. Eh oui. Donc, il faut l'entretenir, ce sentiment, prendre racine. Vous savez que le Saint-Esprit est venu dans son temple. Et son temple, c'est qui? C'est nous. Alors, je rappelle plein de choses, mais franchement, le contentement, c'est ça. C'est ressasser toutes les bonnes choses du Seigneur. Comme Marie ressassait toutes ces choses sur son fils, ce qu'on lui avait promis, ce qui s'était passé. Et le contentement dont témoigne Paul s'installe quand rien d'autre nous satisfait. Il est ancré sur ce qui ne peut pas nous décevoir. Si l'assurance d'atteindre un but se vérifie quand on le franchit, on est sûr, quand on franchit la ligne d'arrivée, on est sûr d'avoir gagné, d'avoir fait le parcours. Eh bien, Christ nous affranchit, donc nous sommes réellement libres d'atteindre ce but. Je ne sais pas si vous voyez le cheminement, mais ça, c'est formidable. Le contentement n'est pas une béatitude passive ou inerte, mais une chaleur pour le chrétien exposé au froid, ou un rafraîchissement pour le chrétien exposé à la canicule, mais de sa vie, des difficultés. Une paix dans la tempête et une force dans l'épreuve. Vous savez, quand on a un vide en soi, qu'on passe son temps à le combler avec toutes sortes de choses, que la vie semble monotone, triste, sans savoir comment sortir du tunnel. J'ai un membre de ma famille, un peu comme ça. Il ne sait pas comment sortir, alors il reste dans son tunnel. On a beau l'encourager, prier pour lui, mais on a confiance dans le Seigneur. Il va produire son effet, il va le toucher. Quand on ne voit aucune lumière qui nous guide vers la sortie. Alors toute apparente réponse, on essaye. On est presque précipité vers quoi? Vers un mirage, celui qu'on regarde. Et on laisse la place à l'addiction des sens, à la satisfaction des sens, et la résignation à la dépendance, comme je le disais tout à l'heure. À moins que ce ne soit une glissade vers une dépression, là, c'est encore un cas plus difficile. À l'opposé du vide ressenti, l'opposé de ce que je viens de dire, la présence trop forte d'une passion, comme du travail, l'appel de la gloire, ce que j'évoquais tout à l'heure, si on parle de la gloire, à Dieu seul soit la gloire, n'est-ce pas? Au siècle, des siècles, hein? De l'argent. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. C'est pas moi qui le dis, hein? Je l'ai trouvé en Ecclésiaste 5, verset 9. Etc. Ben, c'est vrai que si j'essaye de manger un billet de 50 euros, je ne serai pas rassasié. Vous êtes d'accord? Bon. Vous savez, le surbooking, comme on l'appelle, c'est un beau terme, ça. Quand il prend toute la place, il barre la route au bon sens, il rend sourd à la voix de l'Esprit de Dieu. C'est comme si on lui disait « Oh, parle toujours, ouais, mais tu vois, je suis occupé, non mais parle toujours. » Alors, on ne lui dit jamais au Seigneur « Parle, ma tête est malade », jamais on dira ça. Mais c'est ce qu'il voit dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre mauvaise décision, dans notre mauvais choix, parce qu'on s'éloigne du contentement de sa présence. Ecclésiaste 1, verset 13, nous donne son expérience. Il dit « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. » C'est là une occupation pénible. « Celui qui augmente sa science augmente sa douleur », rajoute-t-il au verset 18. Faire tous ses efforts pour comprendre, expliquer, définir ce qu'on vit, c'est vrai que c'est pénible, et c'est inutile pour combler ses attentes. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est où ? Il est sur le pont. Il est seul maître du temps et de ta, de ma destinée. Vous êtes d'accord avec ça ? Si vous êtes d'accord, dites oui. Est-il maître de ma destinée ? Amen. Bon, alors on est tous d'accord, ça va. Vous savez, le souci du vêtement ou du manger, ça devient secondaire. Les oiseaux, le lys, vous vous rappelez ce passage ? Dans notre pensée, dans notre âme, le souci du vêtement, du manger n'est plus primordial. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ce n'est plus la première place, ce n'est plus la première place. L'acceptation du salut par le sacrifice de la croix donne l'accès à l'état de chrétien. Ça, c'est la phase initiale. Et c'est une excellente étape. Une bonne entrée dans la présence du maître. Mais il y a encore peut-être des ombres. Peut-être dans nos vies, il y a encore des coupures dans cette relation avec lui. Alors, à cause de problèmes qui viennent de l'importance d'activités nécessaires, qui deviennent prioritaires, de tentations passées qui ont laissé encore des post-it. Il faut que le Seigneur fasse le ménage. Il faut persévérer pour s'envelopper de la grâce de Dieu, dans le contentement de sa grâce et de son action au quotidien. Le seul repère unique dans l'isolement n'est pas dans l'isolement, pardon. Je pensais aux silent blocs. Bon, c'est un peu mécanique ce que je vous dis. Les silent blocs, c'est des gros caoutchoucs qui isolent, mais ils sont bien fixés au sol. Et ils empêchent toutes les transmissions négatives, tout ce qui va détériorer les vibrations, les bruits. Le Seigneur nous veut sur silent bloc dans son contentement. Une belle image, ça. Pensez à ça. Si vous n'avez jamais vu, je pourrais vous en amener un jour de silent bloc. C'est vraiment empêcher notre usure prématurée et maintenir l'efficacité de l'œuvre de Dieu dans nos vies. La capacité de résilience, un mot très à la mode, la résistance, non pas dans l'effort constant, épuisant, mais dans le repos et la paix tant recherchés. Et puis, je rajouterais la simplicité de l'œuvre de Jésus. Je n'ai pas noté le passage, mais la simplicité, comment Jésus a simplement apporté son œuvre. Moi, c'est choquant, excusez-moi, ce n'est pas le terme, mais c'est incroyable. Simplement, il est venu homme, il a accompli son œuvre, il est monté sur la croix, il est mort, il est ressuscité, il a fait des choses extraordinaires, que seul Dieu pouvait faire. Il l'a fait simplement, sans tambour ni trompette, sans fanfare, sans rien. Mais ayons cette simplicité, nous-mêmes, simples comme des colombes, ça veut dire quelque chose, simples comme... Compliquons pas tout. On vient au Seigneur, on entre dans sa présence, on entre et il nous donne ce contentement, cette joie merveilleuse qui nous remplit. Si on reçoit son contentement, ce n'est pas pour s'extasier, rester passif, bien sûr, mais pour avancer avec assurance dans la carrière qui nous est offerte. Donc, il faut l'entretenir. Donc, il faut nous ressourcer, rafraîchir notre rame. Pour ceux qui connaissent un peu ça, la rame, rémor, t'as compris. Je ne le dirai pas. Voilà. Et je vous laisse, en dernier lieu, le psaume 90, verset 14. Le psaume 90, 14. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous, réjouissons-le dans sa bienveillance, dans sa présence. Dès le matin, nous serons triomphants. On va avoir c'est pas un diplôme, ce trophée merveilleux que Dieu nous a donné. Ce trophée, on le brandit, alléluia, et on veut vivre de sa présence dans nos vies. Donc c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. En tout temps et en toutes circonstances. Amen.